Donc, Marie-Françoise Fugiel, je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture sur deux thématiques principales que sont le tourisme à la ferme et les produits locaux. Et c'est dans ce cadre-là que je suis amenée à organiser ce marché paysan des réveillons.
Et vous, Catherine ?
Quant à moi, je suis Catherine Prédal. Je suis co-éleveur de daims et apiculteur sur Beaumont Village, juste à la limite de Montrésor, dans le sud du département, derrière Loche.
Et vous participez du coup au
marché paysan ? Et je participe au marché des réveillons, des paysans, de la Chambre d'agriculture, samedi, toute la journée.
Alors, éleveur de daims, justement, c'est un métier dont on n'entend pas parler tous les jours, évidemment. On va y revenir tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que vous pouvez nous parler, peut-être Marie-Françoise, de ce marché paysan, un peu cette histoire ? Est-ce que c'est la première édition ou c'est un marché qui existe depuis un petit moment ?
Alors, c'est la 24e édition du marché paysan.
Plus vieux que moi, c'est dire.
C'est vrai qu'il a un certain nombre d'années, mais il est toujours aussi dynamique parce que les producteurs se retrouvent vraiment dans ce marché. C'est vraiment le berceau du marché paysan à la Chambre d'agriculture. Et d'ailleurs, pour des raisons techniques, on a dû à un certain moment aller à l'extérieur et les producteurs étaient vraiment particulièrement déçus. Enfin, Catherine me reprendra si elle n'est pas d'accord, mais justement, d'avoir quitté les lieux de la Chambre d'agriculture parce que pour eux, c'est vraiment symbolique. Ça représente réellement des producteurs qui vendent en direct leurs propres produits.
Alors c'est vrai qu'en tant que producteur, on a été très attristés de passer à l'hippodrome, parce que ça nous donnait l'impression d'être sur le marché comme un marché de communes tout bêtes, alors que la Chambre d'agriculture pour nous représentait autre chose. Et chez nos clients, c'était exactement la même chose.
Parce que ce changement de lieu pour ce marché-là, il s'est effectué quand ?
Alors, il n'y a pas de problème. Depuis 2 ans, il est revenu à la Chambre d'agriculture. Mais pour des problèmes techniques...
C'est couvert, du coup. Hein,
c'est vraiment extérieur.
Okay, d'accord.
Alors qu'à l'hippodrome, effectivement, il y avait une partie couverte, une partie extérieure.
Okay.
Mais nous étions allés là-bas pour des problèmes techniques, parce que c'est vrai que ce n'est pas rien à organiser. Et il a fallu que nous fassions de gros investissements pour pouvoir recevoir à nouveau le marché, ce qui est le cas. Donc depuis 2 ans, et maintenant ça sera toujours à la Chambre d'agriculture.
Alors si je fais bien les soustractions, 24 ans, ça remonte à 1993.
Oui.
Qu'est-ce qui a motivé à l'époque la création d'un marché paysan comme ça, vous savez à peu près ?
Alors je ne sais pas si c'est la vraie raison, mais je suis arrivée pour m'occuper des produits locaux au niveau de la Chambre d'agriculture, si bien que j'ai travaillé avec les producteurs tout de suite. Et ce sont les producteurs eux-mêmes qui ont dit « mais il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on mette en valeur nos produits et qu'on soit tous ensemble ». Et c'est comme ça qu'a germé cette idée-là et qu'elle s'est mise en place rapidement au niveau de la Chambre d'agriculture.
Et ça a été toujours autour de Noël, ce marché-là ?
Toujours.
Oui.
Alors pourquoi ? C'est très simple. C'est parce que ce sont, comme je vous le disais, uniquement des produits locaux. Et ce sont des produits frais. Bien sûr, il y a de la conserve aussi, mais il y a beaucoup de produits frais. Donc pour nous, des produits frais, c'est très peu de temps avant le réveillon.
Eh oui, évidemment. Donc du coup, la veille, on le rappelle, le samedi 23, donc ce samedi,
voilà.
Tout simplement,
oui.
Ça approche à grands pas. On en parlera plus précisément, en tout cas, de toutes les modalités, les dates, etc., en deuxième partie d'émission. J'aimerais maintenant qu'on parle du terroir et ça tombe bien qu'on ait Catherine du coup qui est éleveur de daims pour parler un peu de tout ça parce que le daim, est-ce que ça fait partie du terroir tourangeau ?
Alors terroir tourangeau, non, pas particulièrement. C'est un animal qui existait en Europe et en France, hein, mais qui a disparu de nos forêts avec l'arrivée de la voiture, les plus gros troupeaux se trouvant à Fontainebleau à l'époque. Alors il en reste encore un petit peu à l'état sauvage dans une forêt d'Alsace, mais sinon c'est fini, chez nous il n'y en a plus. À part quelques bêtes qui se sauvent des parcs, c'est maintenant un animal en parc.
À cause de l'homme, en tout cas, à cause de la circulation automobile ?
Oui, à cause de la circulation automobile.
Mais par rapport à la pollution ou par rapport aux accidents, par rapport au... comment dire ? Oui, quand la voiture renverse un daim ou tue un daim ?
Oui, oui, ouais. C'est tout à fait ça.
Ok, donc c'est des animaux quand même qui sont
voilà.
Et puis, menacés ou
Même à l'époque, si vous voulez, c'était quand même déjà un animal d'élevage parce que c'était surtout un animal de parc royal que l'on élevait pour les enfants et les femmes qui mangeaient du gibier moins fort.
Alors le daim, on aurait peut-être dû commencer par là. C'est un animal qui ressemble à la biche, au chevreuil, je sais pas. Alors il y a probablement des différences, probablement certaines espèces, certaines races différentes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ?
Alors, on va revenir à la famille des cervidés. La famille des cervidés qui comprend les chevreuils, les cerfs et les daims. Dans la famille des cerfs, par exemple, vous avez aussi les rennes, hein, qui remontent. Voilà, ça, c'est la même branche. Et puis à côté, vous avez la branche des daims, des élans, wapitis, carigous, etc. Hein, c'est-à-dire que le daim, lui, il a des palmes. Alors que le cerf et le renne, en fait, ils ont des bois un peu comme des branches d'arbres.
Ok.
Voilà. Et le chevreuil, lui, c'est encore plus petit.
De cornes, en fait.
Alors,
vous parlez de...
Je parle de bois, je parle pas de cornes. Okay. La différence entre une corne et un bois, c'est que la corne, la vache, elle l'a toute sa vie. Si vous la coupez, elle repousse pas. Tandis que les bois des daims, comme les bois des cervidés en général, repoussent tous les ans. Ils tombent tous les ans.
Alors c'est comme des cheveux, en fait.
Voilà. C'est un appendice qui ne naît que chez le mâle et qui tombe à peu près en mars. Et au bout de 3 semaines, une nouvelle paire, encore plus belle, pousse. Alors, je dis normalement chez le mâle, mais les reines femelles ont également des bois.
Ok, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un animal... On parle souvent de la biche, du chevreuil, etc. Mais le daim, pour le coup, cette catégorie-là, on connaît un peu moins, il faut bien l'avouer. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer notamment au marché paysan qui aura lieu samedi, on le rappelle? Est-ce que vous êtes concerté avec Marie-Françoise ou c'était un peu naturel? Ça s'est fait de façon un peu naturelle.
Une façon, je dirais, plus spontanée. C'est-à-dire que sur le marché, la viande de daim est très méconnue et on fait souvent l'amalgame avec la biche et le faon, Bambi, etc. Et donc les gens n'en voulaient pas. Et c'était très très difficile à vendre. Et à l'époque, il y a une dizaine d'années, on était encore une centaine d'éleveurs. On n'est plus que 5 en France.
5 en France ?
Ouais, ouais.
Ah oui.
Donc en tant qu'éleveur. Hein.
Okay.
Parce qu'après, il y a des parcs d'agrément. Non, nous nous sommes imposés, je dirais, à la chambre d'agriculture, parce qu'en fait, on a commencé notre élevage en même temps que la chambre a commencé son marché. Donc, on avait entendu parler de ce marché et on s'est dit, c'est ça l'occasion pour nous, on ne voit pas comment on pourrait vendre autrement. Et donc, voilà.
Évidemment, il faut le préciser, vous allez vendre de la viande de daim et pas un daim vivant, hein,
non,
au marché paysan. Alors, on a parlé de ce daim. Je me tourne maintenant vers Marie-Françoise. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs comme ça et d'autres paysans qui proposent des produits pas communs? Parce que c'est vrai, le daim, c'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les jours sur des marchés. Mmh. Alors, est-ce que samedi, il y aura d'autres producteurs qui proposent des produits un peu... Originaux.
Alors, déjà, l'originalité de ce marché, c'est qu'il propose toute une gamme de produits, de quoi faire un menu, de l'entrée jusqu'au dessert. Et ça, les consommateurs apprécient énormément d'avoir tout cela sur place. Alors, au niveau des productions, il y a vraiment de tout, parce que bien sûr, il y a tout type de charcuterie, plus ou moins connue, hein, aussi bien de volaille, de porc et autres. Mais il y a, et puis bien sûr, le foie gras, hein, au moment de Noël.
Oui.
Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a également, effectivement, de la viande. Il y aura du cerf, du daim, il y aura de la biche. Il y aura, et puis évidemment, de l'autruche cette année. C'est vraiment la nouveauté cette année, de l'autruche. Et puis, il y a aussi les viandes de porc.
Classiques, je dirais.
Plus classiques, mais qui est aussi recherchée par les consommateurs, ne serait-ce que pour différentes fabrications à cette époque-là.
Alors justement, c'est intéressant parce que la question se pose de savoir si finalement le daim et ces viandes-là, l'autruche, etc., sont des repas de Noël. C'est une question finalement légitime parce que c'est des choses qu'on n'a habituellement pas dans l'assiette, ou en tout cas pas dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est réservé aux grandes occasions, comme Noël, ou les fêtes de fin d'année, évidemment?
Alors le daim, non, on peut le manger à toute époque en fait. Nous, entre autres, on le vend sous forme de steak. C'est un steak qui se cuit comme un autre. Non, vous pouvez le manger pas tout le temps. Sauf que nous abattons qu'une fois par an.
Autour de Noël, du coup.
Eh ben le deuxième dimanche de Noël, enfin le deuxième week-end de décembre.
Et alors, vous avez combien de daims et combien vous en abattez du coup en décembre?
Alors on a une cinquantaine de daims. Et donc, on abat une vingtaine de petits de l'année précédente.
D'accord. Donc c'est ça, c'est en décembre pour pouvoir revendre notamment sur le marché paysan, mais pas que. J'imagine que vous faites aussi d'autres marchés, non ?
Alors oui, on fait quelques marchés. On n'en fait pas nombreux. On fait juste 5-6 marchés. Marigny-Marmande, entre autres, et puis le marché d'Amboise. Et puis après, on s'arrête là.
D'ailleurs, le daim, c'était une des espèces chassées par les rois à l'époque, non ?
Oui. Chassées, non, élevées.
Ah, élevées, carrément.
Élevées.
Ok.
Élevé, c'est ce que je vous expliquais. Élevé pour les femmes et les enfants.
D'accord, pour la consommation finalement.
Tout à fait.
Ok. Oui,
je n'ai pas fini toutes nos spécialités, notamment de Noël, parce que nous avons bien sûr aussi ce qui est très recherché, les volailles festives, hein, la dinde, le chapon, la poularde, etc. Donc c'est très important. Et puis nous avons également des truffes et du safran. Ce qui gâche rien au moment des fêtes.
Et les glaces.
Ça, c'est notre petit péché mignon, on le gardait pour la fin. Mais nous avons des glaces délicieuses qui sont faites avec le lait de la ferme. Et vraiment, il n'y a rien à dire, il faut vraiment les goûter. Après, on ne peut plus s'en passer. Ça, c'est délicieux.
Vous avez parlé de safran, mais du coup, ça reste un marché qui est quand même, comment dire, haut de gamme, ou en tout cas avec des produits quand même festifs.
Oui, oui, tout à fait. Mais si vous voulez, il en faut très peu en termes d'utilisation culinaire. Il faut, c'est très léger, si bien que finalement, avec un gramme de safran, on peut faire beaucoup de choses.
Oui, oui. Salut Émile, Paul Émile, pardon, oh là là, ce soir décidément avec les prénoms, on lui dit au revoir, bon chers auditeurs, évidemment vous le voyez pas, mais on le salue. On a accueilli aussi Julie entre temps, salut Julie.
Salut.
Julie, comme hier, tu vas t'occuper du quiz, poser quelques petites questions sur le terroir. Normalement il n'y a pas trop de questions pièges, t'es... plus facile, ou en tout cas plus gentil que moi sur les quiz, Julie.
Ça donc va plus être des devinettes, là, en plus.
Voilà, super. On fera ça tout de suite après la première pause musicale. Une dernière petite question avant ça. Le daim, concrètement, ça a quel goût ?
Alors, je dirais, ça a un goût de gibier, qui ressemble un peu au chevreuil. Mais comme ce sont des animaux qu'on abat à un an et demi, qu'on abat directement dans le parc, qui ne sont pas stressés, pas chassés, pas courus, la viande est, disons, un peu moins forte en goût de gibier.
D'accord.
Par contre, quand on la fait mariner, elle reprend tout à fait son goût de gibier, là.
Et par curiosité, vous les abattez comment, les daims ?
Alors, mon mari les abat à la carabine.
À la carabine ?
À une balle dans la tête, ouais.
Julie qui nous a préparé le quiz aujourd'hui pour nos deux invités. Un quiz, mesdames, je vous l'avais dit en première partie d'émission, consacré aux produits du terroir, n'est-ce pas Julie ?
C'est ça, oui.
Alors je mets le petit quiz et c'est parti. Le petit jingle, pas le petit quiz.
J'ai hésité à trop le prendre.
T'aurais dû.
Alors, première question, donc ça va être sous forme de devinette. Alors, il est de forme arrondie et sa caractéristique est son trou au centre. Il est fait à partir de poudre d'amande, de sucre glace et de blanc d'œuf. De quelle spécialité s'agit-il ?
Le macaron ?
Oui, c'est ça. Et est-ce que vous savez exactement d'où...
Cormorie ?
Oui, bravo. Alors, les macarons de Cormorie, alors je ne sais pas si vous connaissez la légende qui est avec ce macaron. Alors, elle est assez rigolote. Ça serait un certain frère Jean, à l'époque, qui travaillait près de ses fours, et il a brûlé sa robe. Et en se dandinant pour enlever les flammes, il aurait un peu soulevé son t-shirt. Et il y aurait le père Séraphin qui l'aurait aperçu et qui aurait vu son nombril. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire un trou au milieu de ses macarons de Cormorie. Voilà pour l'anecdote.
D'accord. Et
un nombril qui inspire les gens.
Ok.
Voilà pour la première question, donc vous remportez un point. Deuxième question. Alors, de forme arrondie, c'est une petite brioche qui est cuite au four au goût de miel, d'épices et de noix. Est-ce que vous savez comment on appelle ces brioches ?
La foisse ?
Oui, c'est ça. La foisse de Rabelais, précisément. Et pourquoi elle s'appelle foisse de Rabelais, Nathanaël ?
Ah, j'en ai aucune idée, mais en même temps, je suis pas d'ici, donc j'ai un alibi.
Alors, ça daterait du Moyen-Âge et ça avait connu en fait un franc succès à l'époque parce que l'écrivain François Rabelais en faisait l'éloge dans son livre Gargantua.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Mais je m'en doute. Troisième question. Alors, c'est obtenu par une longue déshydratation dans un four. Après une phase d'épluchage, elles sont aplaties au platissoir.
Les poires tapées.
Oui. C'est bon.
La réponse était donnée dès le deuxième mot. Hein.
Ouais, pas du tout, pas du tout.
Elles sont présentes d'ailleurs au marché paysan.
Ah. Ok. Et oui, parce que du coup, il y a des produits.
Il y a des spécialités, vraiment. Ouais. C'est les spécialités du terroir. Hein.
Ouais.
Mise en avant.
Donc, j'ai pas pu toutes les citer dans les 5 questions. Mais là, je vais en avoir une autre et ça va parler du fromage le Sainte-Maure. Alors, ça va être un vrai ou faux. La paille de seigle qui servait à donner le goût de la Sainte-Maure, vrai ou faux ?
Faux.
Ah, je crois que vous n'êtes pas d'accord.
Ah, il y a eu un mouvement de tête.
Il y a eu une hésitation.
Oui, moi je pensais que c'était vrai.
Alors c'est faux, je raconte des bêtises. La vraie raison, c'était pour en fait maintenir le fromage pendant sa fabrication, pour pas qu'il s'effondre.
Il y a un autre élément très important au niveau de cette paille, c'est qu'elle est gravée. Et elle est gravée au nom du producteur qui a fait le fromage.
Ah oui, la paille carrément.
Oui.
Donc une
paille gravée.
Quoi.
Ouais, c'est typique de l'AOP Sainte-Maure de Touraine.
Donc on peut facilement voir un faux fromage Sainte-Maure.
Alors voilà,
à cette paille,
le Sainte-Maure n'est pas le Sainte-Maure de Touraine.
Ok, d'accord. Et du coup, vous en avez du vrai, en
bien
tout cas,
sûr.
Officiel au
bien
marché.
Bien sûr, il y a plusieurs producteurs d'AOP Sainte-Maure de Touraine au marché. Bon, et au moins trois.
Pour les auditeurs qui seraient gourmands de fromage, vous savez où aller.
Voilà. Et pour terminer, alors, en 2013, combien de tonnes de rillettes ont été produites en Touraine ?
Alors là, je donne ma langue au chat.
Moi aussi.
Alors j'avoue que je pose cette question parce que je suis un petit peu sartoise quand même. Ouais. Et il y a là la petite concurrence, les rillettes du Mans et de Touraine. Eh bien, en Touraine, c'était 123 tonnes en 2013 qui ont été produites. Donc c'est assez...
Ça fait beaucoup. Hein.
Ouais.
Ah oui.
Mais alors du coup, j'imagine que c'est exporté toutes ces quantités de rillettes, non ?
Ah bah,
exporté en France en tout cas.
Oui,
au moins.
Oui, c'est revendu et puis bah, j'imagine que vous en avez.
Oui, et qu'elles soient de Tours ou du Mans, les rillettes sont très bonnes. Elles sont très différentes. Au niveau de la cuisson, au niveau de la texture, ce sont deux produits différents.
Mais du coup, c'est fait à base de quoi ? À base de graisse de porc, non ?
Non, c'est de la viande de porc.
Ah, c'est de la viande de porc.
Oui, c'est de la viande.
Okay.
Il y a forcément de la graisse, puisqu'il y a du porc, mais c'est de la viande au départ.
En fait, la rillette, c'est comme ça. On prend de la viande et on la fait cuire très, très, très longtemps dans du gras.
Ah, c'est pour ça qu'elle a cette texture un peu gras. C'est que... Ok. Et après, on la met en pot et on la mange comme les terrines que vous nous avez ramenées très gentiment.
Comme la rillette de dinde, je ne suis pas chauvine du tout. Moi, je la préfère dans la Sarthe. Chasse-traite.
Ah bah, c'est à côté. En tout cas, c'est dans la région. Très bien, merci Julie. Tu as une autre question ?
Eh bien non, c'est bon. J'ai posé mes 5 devinettes.
En tout cas, deuxième 5 sur 5 en 2 jours. Julie, je crois que je vais t'embaucher pour faire le quiz.
Je crois que je fais des questions trop faciles.
Oui, c'est peut-être ça.
Merci.
Mais au moins, elles sont intéressantes. Est-ce qu'on peut revenir maintenant concrètement sur cette journée, sur ce marché paysan, et voir un peu les modalités avec vous, Marie-Françoise ? Première question, combien au total il y aura de producteurs ? Je ne vous l'ai pas posé en première partie d'émission, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Il y en aura 34.
34.
34, donc toute production confondue avec les truffes, les safrans également.
Donc... voilà, truffes, safran,
toutes les productions, viande, charcuterie, les vins, les huîtres.
Les huîtres
alors oui, j'ai vu qu'il y avait des huîtres. Là, pour le coup, on n'est pas dans du
produit
local.
Alors, on n'est pas effectivement dans du local, mais c'était une demande de la part des consommateurs, très importante, de façon à trouver sur place, comme nous le disions tout à l'heure, les produits qu'ils recherchent au même endroit. Et par contre, le producteur d'huîtres est un réel producteur. Puisque c'est les règles de base pour participer au marché paysan, c'est qu'il faut être producteur et vendre en direct ses produits. Et le producteur d'huîtres vient de Charente, mais c'est un producteur qui vend ses huîtres.
Alors maintenant, on va parler évidemment de l'aspect un peu technique. Ça commence à 9h, c'est ça ?
Oui.
Samedi 23 décembre, évidemment, on va le répéter une dernière fois. Samedi à 9h jusqu'à 18h, c'est
jusqu'à ça ? Jusqu'à 18h, oui.
Donc toute la journée...
Toute la journée, sachant qu'évidemment, la majorité des consommateurs viennent le matin.
Eh oui, pour préparer finalement,
voilà,
pour avoir le temps de
préparer, de faire leurs courses tranquillement... Mais ça a lieu de 9h à 18h.
Est-ce que chez les consommateurs, il y a peut-être une phase aussi d'observation d'abord de tous ces produits avant l'achat ? Est-ce que vous remarquez ça ou pas du tout ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a une grosse partie de la clé des consommateurs qui sont des fidèles. Alors, ils me font rire parce que je reçois tous les ans des coups de fil. Alors, il y a ceux qui connaissent parfaitement les producteurs, ils se souviennent de leur nom, etc. Mais il y en a qui ne s'en souviennent pas. Alors, qui me disent, mais vous savez, l'année dernière, il avait un pull rouge, il était à tel emplacement, etc. Et si bien que, bon, c'est très facile de retrouver, bien sûr, les producteurs, surtout que la très, très grosse majorité revient tous les ans. Donc, pour les consommateurs, ils sont vraiment contents et on a des coups de fil assez longtemps à l'avance pour savoir la date du marché paysan.
En termes d'affluence, du coup, pardon, je vous ai coupé, Catherine, en termes d'affluence, vous êtes plutôt satisfait de ce marché paysan. J'imagine que, étant donné sa longévité, 24 ans, on le rappelle, en tout cas 24e édition, ça devrait aller de ce côté-là.
Oui, oui. Oui, nous sommes très satisfaits du nombre de personnes qui viennent au cours de ce marché. Et on se rend compte que ça continue toujours d'augmenter. On s'en rend compte et du coup, on est obligé de mettre en place des mesures toujours un peu plus compliquées pour pouvoir gérer tout ce qui est lié à l'accueil du public, au stationnement et tout ça, bien sûr, dans des conditions de sécurité complètement satisfaisantes.
En tout cas, ça sera évidemment à la Chambre d'agriculture de Chambrel-les-Tours. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'adresse ?
Alors, l'adresse de la Chambre d'agriculture, 38 rue Augustin Fresnel.
Donc, à Chambrel-les-Tours, évidemment, on le rappelle. Et information aussi importante, entrée libre. Donc, il n'y a pas de tarif pour rentrer dans le marché. C'est comme
entrée libre, comme un marché entièrement. Donc, entrée gratuite. Et puis, il y a des places de parking. Et puis, il y a l'extérieur, évidemment, de la Chambre d'agriculture où il y a les possibilités de se garer également.
C'est une volonté de laisser une entrée libre pour les consommateurs.
Tout à fait. C'est un marché. C'est intéressant. Il y a des gens qui viennent, on le voit de temps en temps, qui se promènent, qui viennent voir par les nouveaux. Ils viennent au départ par curiosité. Bon, généralement, ils se laissent toujours tenter par quelque chose. mais comme je vous le disais, une très très grosse majorité viennent vraiment pour faire leurs courses.